Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Bonsoir, bonsoir à tous et toutes, amis fans de foot. Ça, c'est de l'intro, hein. Melvin, là, il n'est pas encore là, mais... Bon, oui, alors, on vous explique pourquoi c'est Kevin qui vous parle et pourquoi c'est pas Melvin, le chef d'orchestre de cette émission. Eh, parce que Melvin, il est en retard.
Voilà, fois n'est pas coutume.
Voilà, Melvin, il est en retard, donc on a dû lancer sans lui. Il va arriver dans une petite dizaine de minutes. En attendant, je suis dans les studios avec Pierre. Salut, mon Pierrot.
Ça va, mon Kevin?
Bah, ça va super, et toi?
Bah, écoute, ça va, un Italien au micro, un Italien aux palettes. Voilà. Ça va être une grande émission, je pense, ce soir. Avec son polo de la Juventus.
Et ouais, voilà, tout
Juventus
vêtu, vous ne pouvez pas
il
nous voir.
Il date de quelle année, celui-là?
Eh bah, c'est, il a 2 ans, celui-là.
Oh, il est beau.
C'est ça, exactement. Ben, moi, ça va, on va débriefer ensemble ce week-end foot. On va aussi parler de cette semaine de foot parce que bah,
ça sent la Ligue des Champions, mes amis auditeurs, auditrices.
Le parfum qu'on aime ici. Oui,
vois déjà, tu sais, le ballon au milieu de. Ah non, mais laisse tomber. Ah, mais moi, je te jure, ça me met dans tous mes états, quoi. Je compte les jours. Tu sais, je fais comme ma fille. Je compte les dodos, tu sais.
Ouais, c'est ça. C'est magnifique.
Ma fille, elle me dit à chaque fois, je compte les dodos avant les vacances. Ouais. Ben, moi, je compte les dodos avant la Ligue des Champions. Et auditeurs, auditrices, je suis sec, vous êtes comme nous. Avec de belles affiches, là, qui arrivent.
À chaque fois que la Ligue des Champions arrive, moi, je me revois Mino. En train de regarder les matchs avec ma mère qui me dit tu regardes qu'une mi-temps hein.
Ouais, c'est ça. Et moi à chaque fois je disais je peux choisir laquelle. Non, la première et tu vas te coucher. Non mais c'est quoi ce truc? Mais en vrai, ma mère d'ailleurs, je devrais l'attaquer en justice parce que c'est quand même terrible quoi. T'imagines le truc, la torture? Regarder qu'une mi-temps et tu pars te coucher, tu sais pas ce qui se passe en deuxième?
Ouais, c'est ça.
Non mais c'est une torture.
C'est ça. Et c'était à l'époque des grands matchs de Ligue des Champions sur TF1 avec notre Christian Jean-Pierre, notre Thierry Gilardi aussi, paix à son âme.
Paix à son âme.
Mais
Téléfoot, on aurait bien besoin de lui.
c'est clair. Bon alors, on va quand même vous donner quand même le menu hein, pour cette émission. Donc on va démarrer effectivement avec un tour d'Europe, hein, le championnat d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie ont battu leur plein, notamment pendant ce week-end. On va également
parler. Ça plante des buts de partout. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a des surprises. Hein, on va en parler, mais que des leaders un petit peu inattendus hein, sur cette première journée, ces premières journées de championnat. Donc on va débriefer ensemble dès que Melvin arrivera. On va également parler aussi de la Ligue 1, avec également aussi la Ligue 2. Aussi, avec un invité de marque aujourd'hui pour cette émission, puisqu'on aura Julien Delétraze, l'ancien capitaine, joueur de foot formé au club du GF38. Hein, Melvin l'interviewera notamment dans cette émission. Et on finira justement par la Ligue des Champions. On va essayer de donner également quelques pronostics, hein, parce qu'on va vous sortir une toute nouvelle rubrique dans le RKS Foot Time Show. C'est que maintenant, il n'y aura plus de quiz les semaines de Ligue des Champions dans cette émission. On va également vous donner nos pronostics. On va faire un petit championnat hein, à 3. Avec mon Pierrot et mon Melvin. On va également du coup vous donner nos 3 pronostics. Hein, et puis les pronostics qui se réaliseront, on gagnera des points. Voilà. C'est-à-dire en fonction des cotes. Hein.
C'est ça va être génial. Ça va être génial.
Ça donne super envie, comment je l'ai annoncé.
Ah ouais, non mais c'est clair, tu fais vibrer. Non mais ce qui est bien, c'est que très souvent, les statistiques, les mathématiques, ça ne va pas en fait, avec les gens qui sont ultra cultivés, des noms, des machins. Donc je sens que toi et Melvin, vous allez vous... Je sens que... Oh là là. Parce que moi, tu vois, je suis un mathématicien, je suis un cartésien, terre à terre. Moi, les maths, les statistiques, ça me fait vibrer, surtout avec le livre que tu m'as acheté, hein,
ouais.
Avec le big data du football, avec les expect goals, tout ça. Non, mais franchement, je suis pressé, je suis chaud. Alors, attendez peut-être 2-3 émissions avant de mettre 1000 balles sur mes pronos, hein, les loulous. Je suis pas mauvais, mais je veux pas de problème avec nos auditeurs et nos auditrices, mais non, ça va être sympa. Et puis comme ça, on va pouvoir encore plus partager ensemble ces moments de football, ces moments d'exception.
Exactement. Puis maintenant, les paris ont pris quand même une grosse part dans le football. Maintenant, on ne parle plus football sans parler paris sportifs.
Bah, toi, ça fait 3 ans que tu pars plus en vacances à cause des paris sportifs.
Bah oui, c'est ça.
Tu bouffes tout le budget.
On vous rappelle. Hein, et attention, hein, parce que ça peut nuire à la santé. On n'a pas le jingle qui dit attention, trop parier, mesure en parler avec un spécialiste. Numéro vert, nanana. Voilà. Donc voilà, on va commencer, mon Pierrot, donc avec ce petit tour d'Europe. Hein. Super. Et en, moi, je te propose que, vu que Melvin n'est pas là, on parle du meilleur championnat du monde, c'est-à-dire la Serie A.
Et du meilleur club du monde, hein, la Juventus.
Non, qui... on va quand même donner deux trois résultats, deux trois infos. De toute façon, Melvin il s'en fout de la Serie A, donc on va commencer directement par.
Allez, vas-y, parle de la Serie A.
Par la Serie A, avec donc des rencontres notamment dès le samedi, puisqu'il y a eu notamment le carton de Naples face à l'Atalanta, 4 buts. Ah, il est là. Il est en retard.
Oh là,
il a entendu
Serie A. Son sac, il court.
Allez, on va le laisser s'installer, le Melvin. On va le laisser s'installer. Voilà, il est là avec son masque, avec son pull. Il est énervé.
Bonjour
est
à tous. Énervé, non. C'est les aléas de la vie.
Bon, j'ai envie de dire. Ça mérite un petit jingle, Melvin. Un petit jingle. Ah.
Allô, cher copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté, ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends?
C'est ce que j'aurais fait à ma femme.
C'est toi mon fils?
T'aurais ou ce que t'as fait?
Non, je sais pas ce que je vais faire.
Oh putain, mon top, tu l'as!
C'est pour ce soir en rentrant.
Oh putain. Bon, ça va mon Melvin?
Mais ça va et vous?
Ça va. Mais écoute, on a fait une introduction pourrie, mais on est.
Mais
on
s'en fout.
On est quand même là.
Bon.
Voilà. Mais c'est bien. T'es pas trop en retard. Tu
vois, non,
6 minutes, c'est
gérable. C'est ce que j'avais annoncé.
Voilà. On était en train de parler de Serie A. J'ai venu d'annoncer justement
le carton de Napoli
face à l'Atalanta.
Énorme.
Ouais. Ça, on s'y attendait pas parce que l'Atalanta, en plus, c'est une équipe qui marchait bien depuis le début de la saison.
Bah, d'autant plus, c'était une équipe qui marchait bien, qui produisait énormément de jeux, et le Napoli qu'on attendait quand même, hein, dans les favoris de la Serie A.
Ouais.
Mais je les attendais pas à ce niveau sur ce match-là.
Ouais.
Honnêtement.
C'est vrai.
Donc une belle surprise, en tout cas, ça me fait plaisir pour le championnat italien parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui se dessinent à vouloir aller chercher le haut de tableau et ça sera peut-être une autre compétition que les dernières années qu'on a connues avec une Juve qui était quand même bien au-dessus des
oui,
autres.
Oui, c'est vrai.
Et la Juve, ce soir, messieurs, grâce à son match nul, est européen quand même, hein, 5e place.
franchement, on va
pouvoir agrémenter un peu la page Wikipédia de Pirlo, entraîneur, avec quelle journée Pirlo est européen.
Oh, putain, vous êtes vraiment des cons. Non, faut quand même qu'on parle aussi de l'excellent début de saison de l'AC Milan. Porté par un super Zlatan Ibrahimovic.
Incroyable.
Gagner le derby de Milan, c'est jamais facile. Je crois que le Milan n'avait pas forcément beaucoup gagné ces dernières saisons en plus. Mais moi, ça m'a extraordinairement surpris quand même.
Je me posais la question, tu vois, en regardant les résultats et en regardant le résumé du match avec Zlatan Ibrahimovic, je me posais la question, quand est-ce que... Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, nos chers auditeurs et auditrices, Kevin voue une haine sans nom à Zlatan Ibrahimovic. C'est le genre de mec, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau sportif, extra-sportif, Kevin ne peut pas se le blairer. Il en fait des cauchemars la nuit. Quand est-ce que tu vas reconnaître que ce mec est quand même un extraterrestre à l'âge qu'il a d'arriver à faire ce qu'il fait? C'est quand même incroyable.
Non, mais je reconnais que ça... J'ai toujours reconnu que c'était un très bon joueur. Mais par contre, vous le savez, c'est pas un mystère. J'ai toujours eu du mal avec les footballeurs qui jouaient un rôle ou qui étaient ultra arrogants. Je suis même pas sûr qu'ils jouent un rôle en plus.
Alors lui, je pense que c'est voilà. Je suis partagé aussi. Je pense que c'est pas sûr qu'il joue un rôle. Il est comme ça depuis tout petit. Hein.
Ouais.
Depuis le début de la carrière professionnelle, même quand il était à l'Ajax, déjà.
Oui, il y a déjà des anecdotes. Il y a déjà des phrases. Il parle à des joueurs et tout. Alors puis là, en plus, il fait quand même une déclaration. Je sais pas si vous l'avez vu. Il fait en fait une espèce de réponse au tweet de Lukaku de la saison dernière, parce que Lukaku, quand ils avaient gagné 4-2 l'Inter, il avait dit Milan a un nouveau roi. Bon, super humble.
C'est énorme ce qu'il répond, Zlatan.
Et Zlatan dit: mais je suis votre dieu.
Il a dit à Milan, il n'y a pas de roi,
ouais,
mais
voilà.
Il y a un dieu.
Voilà.
Et moi, je l'adore pour ça.
Mais, oui.
mais
Kevin, si t'aimes Riolo, t'es obligé d'aimer Zlatan.
Ça n'a rien à voir.
Quelle réponse il peut se permettre? Parce que quelle réponse il donne sur le terrain,
oui,
quand même,
oui,
Zlatan.
C'est incroyable. Par contre, j'ai toujours dit ça, c'est qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que, bon, à part quand on passe les quarts de finale de Ligue des Champions, il a toujours une réponse sur le terrain. Ça, c'est vrai.
Et même le mec, il a une force qui est hyper importante aujourd'hui. C'est cette capacité qu'il a à enlever et à prendre la pression des autres joueurs. Moi, je me le rappelle, quand il était au Paris Saint-Germain, on avait Dieu que pour lui. Il rentrait sur le terrain, les joueurs étaient libérés. Tu sais, il jouait libéré. Il absorbait la pression sur lui. Et il est quand même, c'est quand même un mec qui est charismatique. Et à l'âge qu'il a encore, putain, il faut quand même mettre ça exceptionnel. C'est exceptionnel.
39 ans, il a eu hier.
Et tu te rends compte quand même que c'est le Milan qui va le chercher en Ligue américaine pour le faire revenir, parce que Milan est dans la merde et ils jettent leur dévolu sur un mec de 37 piges et tout le monde à ce moment-là se marre en disant bah putain, mais si le Milan en est rendu là,
moi,
c'est quand même une catastrophe.
Je veux bien le prendre pour
et deux ans après, c'est magnifique.
Moi j'y croyais, mais absolument pas à ce retour. Je me suis dit, il va venir, il va mettre 2 buts contre Croton et puis ça sera réglé. Mais
au niveau qu'il a, personne l'attendait.
Non, moi je l'attendais pas. Très personnellement, je l'attendais pas parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, aussi décisif.
Il est régulier.
Il a pas fait que des bons. Enfin, il fait pas que marquer des buts. Il a transformé le Milan AC. Ouais. Depuis qu'il est là, le Milan AC, franchement, je ne les reconnais plus. C'était un club qui végétait à la 5e, 6e, 7e place, ce qui pour le Milan AC, c'est presque une relégation tous les ans.
C'est vrai. Quand on sait qu'après le Real de Madrid, c'est celui qui a le plus gros palmarès en Ligue des Champions, c'est inquiétant.
Et moi, je m'y attendais pas. Il a transformé cette équipe du Milan AC et c'est énorme quand même.
Moi, j'aimerais aussi souligner quelque chose.
On enregistre là de ce qu'il vient de dire, Kevin, sur Zlatan.
Oui, on enregistre.
Okay. Tu pourras me passer la cassette parce que celle-là, je vais la ressortir 2-3 fois.
T'as raison. Non, j'aimerais encore une fois qu'on a beaucoup critiqué le football italien, il faut le dire. C'est encore 41 buts sur cette journée en sachant qu'il reste encore un match à jouer. C'est pour moi un début de Serie A spectaculaire.
C'est bien, c'est bien.
Il faut savoir le notifier quand c'est bien.
Non, mais c'est vrai, c'est bien. Maintenant, il faut continuer et il faut que les équipes. De toute façon, souvent, et c'est notre problème en France, on attend trop que ça vienne d'en haut, les changements du football français.
C'est vrai.
Mais ça doit venir des clubs, des entraîneurs. C'est eux qui doivent rendre ce championnat attrayant.
Qui doivent insuffler.
Voilà, ouais. Avec du jeu. C'est du jeu qu'on veut. Nous, on est amoureux du foot. Ce qu'on veut, c'est des buts, du jeu, des attaques, des équipes décomplexées pour qu'il y ait justement un meilleur niveau, que les équipes consentent que n'importe qui peut gagner contre n'importe qui et qu'on ne sache pas dès le début de saison qui va gagner le championnat et avec combien de points d'avance. Voilà, donc
mais c'est vrai qu'on alors on va mettre peut-être cette émission sous le titre Mea Culpa, mais tu vois, Kevin a fait son Mea Culpa sur Zlatan. Et je te rejoins, Melvin, à dire que cette Serie A, pour le moment, est spectaculaire en termes de buts. Hein, et là où l'Atalanta, l'année dernière, encore faisait office d'extraterrestre, eh ben écoute, cette année, des extraterrestres, il y en a 2-3. Donc c'est bien pour le football, c'est bien pour le spectacle.
Il y a Sassuolo qui marque but sur but, qui est incroyable.
Sassuolo, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. C'est une équipe qui a une excellente presse en Italie, depuis notamment que l'entraîneur en place, De Zerbi, jeune entraîneur. Et là, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui en prend beaucoup, mais elle n'est pas encore sur le style vraiment de l'Atalanta. Mais c'est une équipe, par contre, qui a une très bonne presse parce qu'elle est joueuse. Ça me surprend pas.
Putain, la vache, les 3 derniers matchs, 4 buts à chaque fois.
C'est pour ça qu'il marque énormément. Ouais. Moi, je suis inquiet pour la Lazio, par contre, qui fait un début de saison vraiment, vraiment moyen, à l'image de la défaite.
Ils en prennent 3 à l'Assemble, c'est énorme.
C'est énorme. Ils jouent en plus contre Dortmund en Ligue des Champions, là, je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus.
Changement d'entraîneur.
Non, peut-être pas, parce que Inzaghi, il a quand même amené cette équipe à un niveau.
Ouais, il a un sacré aura encore.
Il a, on va dire, un peu de marge encore. Mais je suis vraiment extrêmement surpris.
Le père de Melvin. Ouais. Pippo Inzaghi.
Non, c'est pas Pippo, c'est son frère.
C'est mon frère.
Voilà. T'es con. Bon, on va passer sur la Serie A parce qu'il faut quand même qu'on parle des autres
championnats. Les gars, 13 minutes d'émission, on a parlé que de Serie A. Si on m'avait dit, je serais pas venu.
Mais il faut le dire quand c'est bien aussi. C'est assez important. C'est vrai.
Vas-y, Méline, je te laisse reprendre les manettes quand même de cette émission. Il faut
t'es payé pour ça au prix auquel on te
paye.
Voilà,
c'est vrai, exactement. Il faut qu'on parle aussi, messieurs, dans ce Tour d'Europe avant de passer à la Ligue 1. Du championnat d'Angleterre, ce qui s'est passé encore dans le championnat d'Angleterre, dans le choc de cette journée entre Everton et Liverpool, est encore une fois, messieurs, scandaleux.
Ah ouais.
Je trouve ça pitoyable. Est-ce que vous avez vu l'attentat sur Van Dijk? Comment?
Ouais, ligament croisé en plus.
Ligament
touché,
croisé.
Opération.
Quand l'arbitre ne dit non, je peux pas sanctionner. Il y avait hors jeu. Ça peut pas.
Non, mais en plus c'est pas une règle ça. Enfin, je veux dire.
Ce n'a fait pas partie de la règle. C'est pour ça que je dis.
Alors que tu décides de ne pas mettre pénalty parce que tu dis juste qu'il y a une faute avant.
C'est autre chose.
Mais tu dois pouvoir mettre, et c'est dans les règles. Hein, oui, il a le droit de mettre un carton rouge à Jordan Pickford quand il voit que Van Dijk ne finit pas le match. Et qu'il
mais
voit
même
que,
s'il finit pas le match, il y a rouge.
Il a le droit de consulter la VAR pour voir ce qui s'est passé et se dire bon, ok, je mets pas pénalty. Par contre, Pickford, il prend à minima un jaune et pour moi, c'est même rouge.
C'est rouge direct.
Parce qu'il y va pas du tout avec l'intention de jouer le ballon. Il y va avec les deux pieds décollés. Les deux pieds sont à 1 mètre.
De toute façon, la règle, elle est simple. Hein. C'est dès que tu touches à l'intégrité physique d'un joueur, c'est rouge. Point barre. Et que ça se fasse en hors-jeu ou pas en hors-jeu, c'est une séquences de jeu, qu'elles soient hors jeu ou pas.
Là, c'est 6 mois, messieurs.
Mais je pense que la commission je pense que la commission va revenir dessus, comme ça avait été le cas avec Son. Je pense qu'il y aura une modification qui va être apportée. Il va falloir guetter, mais je suis quasiment sûr.
Leur jeu de Mané, messieurs. Comment on peut donner hors jeu là-dessus?
C'est... Tu vois, à la limite, je suis encore un fervent défenseur du VAR. C'est ce qui me différencie de Riolo, même si Pierre pense que je dis tout pareil que Riolo. Mais c'est ce
t'as un mélange de Riolo et de Bielsa, alors.
Non, mec.
Les VAR.
On va lancer une rubrique animation parce que franchement, c'est exceptionnel.
Non, pour moi, la VAR, c'est beaucoup de positif quand même parce que ça permet de régler des injustices. Mais il faut qu'elle soit bien utilisée. Pour moi, quand on est vraiment sur une question de centimètres comme ça, il y a une règle qui existait dans le football. Je sais pas si elle est toujours d'actualité, mais moi qui étais arbitre à l'époque, on me disait faut privilégier l'attaque quand tu as des épisodes litigieux. Là, on est quand même sur une question de centimètres. Même à la vidéo, c'est quand même compliqué de juger.
Là, il parlait de 3 mm.
Un orteil de pied, même pas.
Non, mais vous imaginez où on en est.
Non, mais c'est quand même ridicule. Pour moi, quand on est sur des phases comme ça, l'arbitre doit privilégier l'attaque et mettre le.
On en parlera tout à l'heure dans le GF38 qui a été victime aussi de l'arbitrage.
C'est un truc de fou.
Le dernier match qu'il faut en parler, c'est cette claque. Cette claque pour moi qui a pris Mourinho. Puisqu'après mener 3-0, il se fait remonter par West Ham 3-3. Il était dans un état, notre José Mourinho, catastrophique. Excusez-moi, mais pour moi, c'est un peu la déception de ce début de championnat, Tottenham.
Tu peux en prendre 3 en vrai, hein. Excuse-moi Kevin, mais tu peux en prendre 3, mais tu prends pas 3 buts en 10 minutes. Quoi. Ouais, ils les prennent entre la 82 et la 94e. Quoi. Et puis, enfin, je veux dire. Mais de toute façon, regarde, ce match pour moi, il est symptomatique de ce que fait aujourd'hui Tottenham. Tottenham aujourd'hui, c'est une des meilleures attaques au monde. Et par contre, au niveau défensif, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est fébrile, ça prend des buts. Non, pour moi, aujourd'hui, Tottenham, il faut qu'il fasse quelque chose en défense. Là, ça va plus.
De toute façon, c'est comme beaucoup d'équipes en Angleterre. Encore une fois, ils savent pas recruter les défenseurs centraux.
Voilà.
Mais pour moi, pour moi, Tottenham, c'est marqué interdit de prendre 3 buts en 10 minutes. Ça, c'est clair. Après, quand tu analyses les buts qu'ils prennent, ils prennent un but sur coup franc, un but contre leur camp. Un but, une frappe, franchement, je suis sûr qu'il l'a fait 100 fois, il la met 45 fois dans les nuages, le but de Lanzini, là. C'est aussi vraiment pas de chance pour ce club-là, je trouve, quand même.
C'est malheureux.
Le timing, par contre, avec l'entrée de Bell, le retour de Bell, quoi,
il gagne
3-0.
Il rentre 3-0.
C'est horrible. C'est quand même incroyable.
Ouais, mais c'est un chat noir.
On peut pas le blâmer parce qu'il est attaquant, mais... C'est quand même...
Alors justement, ça me permet de rebondir. On va parler aussi un peu du championnat d'Espagne, même s'il y a eu un choc qui a été complètement nul, excusez-moi, parce que je l'ai regardé entre Manchester City et Arsenal, où on n'a même pas besoin de parler de ce match parce que on s'attendait à un match énorme et puis Ryan Sterling marque un but et c'est tout ce qui s'est passé.
J'ai envie de dire, c'était presque prévisible parce que quand on connaît l'affection qu'il y a entre Guardiola et Arteta,
Arteta, bien sûr,
qui était son adjoint à Manchester City, on a presque l'impression de.
Prônent le jeu et il y en a pas eu.
On a l'impression que c'est presque un match. Bon, écoute, on essaie de pas trop se faire mal et puis.
C'était un peu ça.
Franchement, on dirait presque que c'est ça, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi.
C'est mon poulain.
On va y aller tranquille avec lui.
Je vais pas lui mettre une branlée. Puis il prendra 15-0, c'est pas grave.
Parlons, messieurs, du championnat d'Espagne, parce que je vais vous citer des noms. Real Sociedad, Villarreal, Retafe, Cadix, Granada, Betis Séville font partie des 10 premiers du côté de...
Mais en vrai, c'est terrible.
Qu'est-ce que c'est
terrible,
messieurs,
hein, mais
il est terrible, ce championnat.
J'ai même pas envie d'en parler.
franchement.
En vrai, tu sais, là, je suis là, on est là, parce que bon, on rigole parfois à parler de nos salaires. Pour nos auditeurs, on est en associatif, c'est du bénévolat. On est heureux, on est comme vous, on aime le foot. Mais tu vois là, moi je suis bénévole parce que j'aime parler de foot, mais j'ai pas envie de parler de la Liga. J'ai envie de boycotter cette ligue. Quoi.
Tu sais, on parlait l'autre jour en Ligue 2, on se questionnait du niveau de cette Ligue 2 parce que très peu d'équipes ont plus de 2 points par match. Il y en a aucune en Liga qui a plus de 2 points par match.
Mais non, il y a rien, il y a aucune régularité. Toutes les équipes ont déjà perdu, hormis l'Atlético Madrid qui reste invaincu mais qui est 8e.
Ouais.
Messieurs,
non, mais regarde, parlons du Barça. Le Barça, hein, il joue contre Getafe, qui fait un bon début de saison.
Getafe.
Getafe. Moi, je vous le dis, à l'école, j'ai fait anglais, ok, allemand et latin. Donc moi, l'Espagne, il n'y a pas d'Espagne,
Getafe.
Moi, je suis un breton, ok. Getafe. Non, mais Barça, avec Messi, hein, avec quand même des joueurs, excuse-moi, un minimum talentueux, avec Griezmann.
Mais Griezmann, avec, il a encore avec, été nul
attends,
en plus.
Avec Dembélé, Griezmann, Messi, 90 minutes, une frappe cadrée.
Ouais.
C'est catastrophique.
Ouais.
Non, mais c'est une frappe cadrée en 90 minutes.
Au niveau des stats, c'est catastrophique. Au niveau des matchs, c'est catastrophique. Au niveau des buts, il n'y a même pas eu 25 buts dans cette journée. C'est, franchement,
mais Piqué, faut qu'il parte. Bousquet, il te pourrit.
Non, mais là, on est
terrain.
En train de te dire que ça va au-delà faut de Barça. Parte. C'est tous les clubs. Là, il y a un niveau, ils sont en train de s'enfoncer dans le néant. Là.
Mais quand tu vois quand même à la base, quand t'as sur un même terrain Griezmann, De Jong, quand je vois Griezmann à la base, alors je sais pas si c'était réellement sa position, mais à la base, il est annoncé comme faux numéro 9. Mais qu'est-ce que tu mets Griezmann en faux numéro 9? En fait, Suarez, il est parti. Il est où son remplaçant? Comment tu le laisses
mais y
partir
en a pas.
Suarez?
Il n'y en a pas.
Mais ils vont faire comment là?
Si, il y a Braithwaite.
Non, mais Braithwaite.
C'est vrai, il a raison, Kevin, c'est ce qu'il dit. Il n'y a personne.
Comment tu peux laisser partir
c'est
Suarez
triste.
Alors
et moi, il y a une autre équipe qui m'inquiète, c'est le Real. Messieurs, on n'en parle pas, mais le Real.
Ouais, ils sont troisième quand même.
Ils sont troisième, mais on ne les attend pas là non plus.
Écoute, le Real. Encore une fois, je vais être beaucoup plus doux avec le Real que je le suis avec le Barça. Pas parce que j'en aime un plus que l'autre, parce que pour moi, c'est un peu la peste et le choléra. Pour reprendre une... C'était Sarkozy qui avait dit ça. Bref, aujourd'hui, le Real, il faut voir un truc, c'est que le Real, le dernier mercato, ils font plus 100 millions. Okay ils achètent aucun joueur, ils revendent à tout va. Et le Real de Madrid, pour moi, là, ils sont en mode pilotage, gestion d'entreprise, avec la projection... d'aller chercher Camavinga.
Mais ils sont capables d'être champions d'Espagne avec ce niveau-là.
Bien sûr.
Avec ce niveau-là, ils sont capables d'être champions encore.
Et tu peux pas blâmer le Real de Madrid qui fait un mercato à plus de 100 millions, qui recrute personne. Mais quand je te dis personne, c'est qu'ils recrutent quasiment personne et qui sont simplement en train de préparer l'après-Covid en allant chercher Camavinga et Mbappé. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus indulgent avec un club qui fait plus de 100 millions, qui vend, qui dégraisse
on est d'accord.
La conjoncture. Qu'un club comme le Barça, qui laisse partir des joueurs qui n'avaient pas envie de partir comme Suarez, qui garde des joueurs comme Busquets, qui investit énormément sur ces derniers avec Griezmann.
Oui.
Coutinho, il est revenu dans l'effectif. Il est où Coutinho là? Non mais il est
il
où
était
Coutinho
positif
Coutinho,
COVID.
Il est sur le banc. Non, Coutinho, enfin... il est sur le banc. Mais c'est.
Mais les gars, on a un entraîneur, mais vous parlez de Ronald Koeman. Mais Ronald Koeman, c'est pas la Ligue des Champions, justement. Je
non, mais
le dis tout de suite.
Ben
hein.
Voilà, mais comment à la mi-temps, quand t'as fait zéro frappe, parce que la frappe cadrée, elle arrive en deuxième mi-temps, comment à la mi-temps, quand tu fais zéro frappe cadrée, tu reconduis la même équipe?
Bah, tu peux pas. Excuse-moi, tu peux pas, surtout quand tu t'appelles le FC Barcelone. Mais t'as raison, on devrait arrêter de parler de ce championnat.
Putain,
parce que
ouais,
c'est moi. Et parler d'un autre championnat, moi, qui me fait plaisir, encore une fois, c'est la Bundesliga avec cette victoire du Bayern. Doublé de Müller, doublé de Lewandowski. Comment ce joueur, il est pas Ballon d'Or? Moi, pour moi, ça aurait été un des joueurs qui aurait pu être Ballon d'Or cette année.
Parce qu'il est polonais.
Ça n'a rien à voir.
Bah, moi, je suis polonais. Depuis que je suis tout petit, je suis persécuté. Voilà, j'ai pas de chance. Non, mais oui, c'est vrai.
C'est exceptionnel.
Après, tu sais, il fait une saison l'année dernière stratosphérique. Il a un parcours en Ligue des Champions exceptionnel. Il se hisse au niveau de Cristiano Ronaldo. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de Ballon d'Or cette année. Écoute, c'était peut-être son année.
C'était son année.
Je pense. Et s'il y avait eu un euro. Et s'il avait réussi à sortir la Pologne, je ne sais plus si la Pologne était qualifiée de base. Si, ils sont qualifiés pour le prochain.
Ouais.
S'il avait réussi à faire un bout de parcours avec la Pologne, franchement, pour moi, il était Ballon d'Or cette année. Mais d'ailleurs, c'est un scandale, on en reparlera
pas. C'est marrant parce que l'Allemagne, c'est presque le seul championnat où il y a les trois premières places sont occupées par des équipes.
Les trois grosses équipes.
Qui sont cohérentes.
Dortmund,
quoi.
Leipzig.
Voilà. Alors, on peut aussi.
Mais attends, Leipzig fait un super début de saison.
C'est
une
très très grosse équipe. Très bon entraîneur.
C'est marrant, ça. J'ai parlé de Leipzig quand on a vu le tirage avec des champions.
Moi,
j'ai dit, c'est tout pour
non,
lui, Pierre.
Pas moi. Non. Moi, j'avais dit que c'était très compliqué.
Oh, la cassette. Ça va ressortir la cassette.
J'avais dit que c'était très compliqué, messieurs. Allez, on change de championnat, messieurs. On va parler de la Ligue 1. Parce que ça est joué ce week-end en Ligue 1. Des surprises, des absences. À répétition, vous avez vu le coup de Montpellier, messieurs, c'est quand même énorme. Hein. Un jour avant le match, ils annoncent 12 cas positifs au Covid et finalement, le lendemain matin, il n'y en a plus que deux. J'arrive plus à comprendre. Bref, cette journée a commencé par Dijon-Rennes, un partout entre Dijon et Rennes.
Déception au Rennes quand même. Là.
Bah, mais c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est une déception.
C'est décevant.
Pas aller faire un résultat du côté de Dijon pour une équipe qui joue le top 3, on va dire, c'est moyen.
Non, le pire, c'est que Dijon ne vole pas le nul. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas Rennes qui a mis toutes les occasions à côté ou que Gandalf était dans les cages, rien à voir. Hein.
Il revient souvent, ce Gandalf.
Moi j'aime bien Gandalf.
Il a un problème avec Gandalf.
Mais attention, c'est Batman.
À Rennes, vous avez vu, il n'y avait ni Camavinga, ni Nzonzi, Clément Grenier quand même joué. Voilà, il y a quand même.
C'est pour ça que je dis attention.
Certaines choses.
Parce que les deux internationaux n'étaient pas présents. Donc, ce qui peut expliquer
c'est,
aussi.
C'est ça qui montre aussi que Rennes a un effectif léger.
Réduit.
À l'inverse de Lille, on y reviendra.
Pour cette année, c'est vraiment léger.
Je pense que Rennes a un meilleur 11 que Lille, mais par contre, il manque cruellement de profondeur.
C'est ce qu'on disait déjà en début de saison.
Après, Lille, si on prend l'exemple, a un ou deux ans d'avance sur Rennes.
Peut-être.
Bon, moi, j'ai regardé 3 matchs, donc je vais te laisser défiler sur tes matchs. Mais moi, j'ai regardé Paris Saint-Germain-Nîmes, Nantes-Brest et Lille-Lens.
Est-ce que Paris Saint-Germain-Nîmes, on est obligé d'en parler, ça a été une formalité pour
moi. Ouais, voilà. Si, tu peux mettre. Alors, il y a deux choses à mettre en perspective. Un, c'est le fait que Mbappé, il soit là, il soit présent et qu'il arrive à retrouver de l'efficacité offensive. C'est déjà pas mal. Deux face-à-face, deux buts. À chaque fois, il fait le bon choix. Donc, ça, c'est quand même de bon augure quand on voit encore une fois ce qu'il a fait ces derniers mois. Et l'autre point que je veux mettre quand même en perspective, parce
Florenzi.
Que c'est Florenzi.
Il est exceptionnel.
Il aurait pu en marquer 4. Sincèrement, il est monstrueux. Ouais. Et juste derrière, d'éclat de l'entraîneur de l'AS Rome, qui se dit orphelin de Florenzi et qui regrette encore son départ. Et il l'a dit dans la presse, c'est bien Florenzi qui a insisté pour venir au Paris Saint-Germain et le club ne l'a pas retenu. Mais ce qui est incroyable, quel match de Florenzi.
Moi, je disais cette semaine.
Il est magnifique.
C'est marrant quand même. On voit tout de suite les personnes qui ne suivent pas le championnat italien parce qu'ils découvrent Florenzi en disant ah, c'est super.
Moi, je t'avoue que je le découvre un petit peu, même si j'en avais entendu parler, mais
je le découvre à ce niveau-là.
Alors, c'est pas vous, mais il y en a même un qui m'a posé une question. Mais il est international, Florenzi? Oui, il a presque 40 sélections quand même.
Oui. Non, ça fait partie.
Pirlo joue plus.
Non, il est entraîneur.
Et Inzaghi alors. Est-ce qu'il est toujours titulaire avec la Squadra?
Toujours. Messieurs, Reims-Lorient, victoire de Lorient 3-1. C'est aussi une surprise pour le promu lorienté, mais en tout cas, c'est de bonne augure.
En tout cas, rien ne va plus à Reims.
Rien ne va plus à Reims. C'est une catastrophe. Ça reste quand même.
Et Lorient aussi, messieurs, qui enchaîne. Parce que à chaque semaine, on parle de Lorient comme de personnes ayant subi. Là, ils sont.
Lorient, c'est 17e.
Ils portent de la relégation.
Voilà. Mais bon, autre match également, messieurs, sur lequel on peut revenir, c'est Marseille face à Bordeaux. Une victoire 3-1 des Marseillais face au retour de Ben Arfa, messieurs.
Ouais, c'était bien la seule actualité et le seul truc positif qu'il y avait à Bordeaux.
Non, le but de Thauvin.
Thauvin, il
c'est un bijou.
Ouais.
Mais ce que je veux dire
par rapport à Bordeaux, si j'analyse juste Bordeaux, c'était pas.
Par contre, tu vois, j'ai pas regardé le match et je pense que les gens qui l'ont regardé ont dû quand même se faire un petit peu chier, indépendamment des buts, parce que en tout sur le match au global, il y a eu 14 frappes.
J'ai vu une petite demi-heure. C'est un match moyen. Les Marseillais qui ont maîtrisé, mais surtout face à un Bordeaux complètement éteint, sans fond de jeu, sans projet.
Moi, je l'ai dit quand on m'a annoncé Gassé à Bordeaux. Je lui ai dit, il va aller s'enterrer
là-bas. Moi, j'ai envie de dire le pauvre, parce que vous avez vu l'effectif qu'il a. Pour mettre Ben Arfa, qui n'a pas joué depuis 15 ans bientôt, à un moment donné, c'est qu'il y a quand même des problèmes dans l'effectif bordelais. Et on l'avait signalé.
Mais on le sait qu'il y a des problèmes à Bordeaux.
Et je pense que ça va être très compliqué.
Si on pouvait tous les énumérer.
Costi, Kossiani, Ali, Ben Arfa, il y a quand même Pablo. Il y a 2-3 joueurs comme ça.
Mais c'est du recyclage.
Mais c'est pas. Il y en a trois des joueurs qui ont le niveau pour jouer dans le top 5 de la Ligue 1. Là. Faut pas exagérer, Pierre. Depréville, c'est pas un joueur top joueur français.
Mais Depréville,
Ben Arfa. Il a 33 ans.
Mais quand tu regardes
Adli, c'est peut-être le seul qui aurait sa place dans un effectif type Marseille ou peut-être Lyon, Lille, OK.
Excuse-moi,
et encore.
Quand je vois Kossiani, Costil, Pablo et que je vois aussi comment il s'appelle le latéral gauche qui
Benito
jouait,
là, Mussolini, non?
Non, l'autre, le latéral droit, celui qui joue au Paris Saint-Germain avant. Bref, j'ai
Sabali.
Sabali. Moi, ces joueurs-là, je les ai vus évoluer, je les ai suivis, notamment l'année dernière. En vrai, il y a un vrai potentiel. Ça, c'est des joueurs qui, au niveau défensif, c'est costaud. Je comprends pas comment ils se prennent des branlés à chaque fois.
Mais moi, ça me fait pas rêver, Pierre. C'est costaud.
Le milieu de terrain, il est pas beau.
Mais il y a rien qui va dans cette équipe, presque. Ils ont été obligés de revenir Paul Bayes aussi, qui a 60 ans. Costil, c'est un gardien, il peut jouer encore un petit peu. Mais bon, si tu ne lui mets pas des bons joueurs devant, ça ne va pas.
Ça ne peut pas marcher. Messieurs, autre match, là, cette fois, enfin, la victoire de Lyon avec un Memphis Depay qui nous fait mentir comparé à ce qu'on a dit la semaine dernière en disant que ça serait très compliqué pour lui de jouer suite à l'avortement de
son... Il nous fait du Memphis Depay, quoi. Il va faire un super match la semaine prochaine, il va
peut-être,
rien faire.
Peut-être, voilà. En tout cas, il a été monstrueux hier.
Oui, voilà.
Avec un Toko et Cambi
à Strasbourg qui est 18e, oui, c'est ça, avec 3 points.
Ouais, mais voilà. Attention. Alors, je vais comparer ce qui est incomparable. Je vais comparer Strasbourg et Dortmund. Tu te rappelles la...
Magnifique transition.
Écoutez, messieurs.
Ils sont pas loin. Ils sont pas loin niveau géographique. C'est la seule comparaison.
Tu te rappelles l'année où Dortmund est avant-dernier et que Klopp enchaîne défaite sur défaite avant son départ. Quand il vient de perdre Lewandowski, qui vient de partir au Bayern de Munich. Et ben, tu vois, le big data du football. Et messieurs, dames, je vous invite, auditeurs, auditrices, à aller regarder ce
J'aurais
livre.
J'aurais jamais dû lui offrir ce livre.
Regarde-le. Non, mais tu regardes. En fait, ce bouquin te met en perspective l'importance des statistiques dans le football. Et en fait, il te montre que dans les statistiques, une équipe qui est première, elle va faire tant de frappes, elle va avoir tant de possessions de balles, tant de passes réussites, et qu'en gros, elle te met en perspective que si l'équipe frappe autant dans telle zone avec tel pourcentage de passes et tel pourcentage de réussite, cette équipe se classe à peu près tant. L'année où le Dortmund est 18e, normalement son vrai classement officiel par rapport à ses statistiques aurait dû être le même de l'année dernière, c'est-à-dire 2e. En fait, cette année-là, Dortmund a une chance, mais une malchance comme jamais tu as vu. Tu peux reprendre chacun des matchs, ils dominent tous leurs matchs et ils perdent à chaque fois. Et là, Strasbourg, ça fait déjà 3 matchs que je les regarde jouer. Strasbourg, les gars, c'est loin d'être dégueulasse. Hein. Je vous promets que Strasbourg, c'est pas
18e. Non, c'est pas dégueulasse, justement. Strasbourg
joue comme un 7e, comme un 8e. Oui. Et je nuance juste que le match de Lyon, tu l'as vu, si tu parles de Depay comme ça, Strasbourg, ils sont pas dégueulasses. Hein.
Non, c'est pas
ça
dégueulasse.
Joue bien, ça joue 7e, 8e du classement.
Strasbourg avait la possession de balle, Strasbourg a frappé plus de fois.
Strasbourg est juste, c'est une belle équipe.
Et juste pas en confiance, et Lyon a eu 100% de réussite. Mais pour moi, c'est pas sur ces matchs-là que j'attends Depay et Lyon. Hein.
Bon, un autre choc, monsieur. Montpellier face à Monaco, qui a pas tenu non plus ses promesses au niveau du jeu. Hein. Un partout, un but de Ben Yedder.
Monaco qui marque un peu le pas, qui laisse passer des points pour une entreprise.
Ouais, parce que... Alors après, c'est deux équipes qui étaient égalité. Hein. Elles avaient 10 points chacune. Ça reste 7e et 8e. C'est des équipes qu'on attend plus haut, même Montpellier, hein, qui a un effectif qui est pas si déconnant que ça. Mais en tout cas... Je reste assez sceptique sur les deux équipes. La victoire des Canaries,
Montpellier, que j'ai regardé. Alors, franchement, pour les supporters Canaries, pour les supporters du FC Nantes, c'est un vrai plaisir. J'ai vu l'entrée de Corchia. Corchia, je le connaissais de nom, je l'avais vu 2-3 fois.
T'es titulaire, Corchia.
Eh, super. Franchement, c'est le remplaçant de Léo Dubois. On a retrouvé Léo Dubois. Le FC Nantes était orphelin de Léo Dubois. Corchia, hier, il nous a fait un match.
C'est un peu le même style de joueur, je suis d'accord avec toi.
Hyper propre. En termes de projection, il est jamais dépassé. Offensivement, il est présent. Corchia, hier, il a fait the match. Il y a eu le retour de Coco, là, qui a été magnifique, qui fait une Panenka, qui a deux doigts de marquer dans la surface. Offensivement, il y a eu du réalisme. Le FC Nantes, il prend un but sur coup franc. Pour le reste, le match, il termine à 5-0. C'est pas un vol. Donc, ça me fait plaisir. À noter qu'Augustin n'est pas rentré, mais offensivement, sans Augustin, le FC Nantes, les Canaries retrouvent un peu de couleur. Et ça fait plaisir.
Eh bien, écoute, tant mieux. Angers-Metz, un partout, un match un peu apathique, qu'on va pas s'attarder là-dessus.
Un match de Ligue 2, quoi.
Voilà. Une grosse victoire, par contre. L'OGC Nice qui est allé s'imposer 3-1 du côté de Saint-Etienne.
Saint-Etienne est en train de couler, c'est le Titanic. Je pourrais mettre la musique, là. C'est impressionnant.
C'est incroyable, c'est en train de couler. Après, un Nice, moi, qui me plaît. Il y a des joueurs qui me plaisent. Les Melou, que j'aime toujours. Amine Gouiri, qui fait encore un gros match.
Ouais, t'as vu le but de Gouiri?
J'ai vu le but de Gouiri.
C'est un gag, hein. C'est... Mounier, il nous fait quoi, là?
Bon, t'as vu la relance de Benitez sur le but d'Aouchiche?
Ouais, non, bon. Mais au Saint-Etienne, gros, mais quand tu parles du Titanic, mais là, c'est pas l'iceberg. C'est
parce que Moulin fait deux boulettes aussi, hein.
Moulin, il fait une boulette.
Je sais pas si
sur
c'est
le but
ça.
De Gouiri. Ah, si.
Je sais pas.
Sur le but de Gouiri?
Non, c'est celui où il a la passe en retrait.
Il met les deux mains en manchette et il la dévie dans son propre but.
C'est vrai que c'est.
Et Gouiri, il la pousse au fond, mais s'il la pousse pas, c'est un CSC. Hein.
Je pense.
Non, mais c'est vrai. Hein.
Non, mais je pense qu'il faut pas tirer là. Parce que hier, j'ai entendu, ouais, mais si c'était Ruffier, il aurait jamais fait ça.
Non,
ouais,
par contre, il faut pas rentrer dans des débats comme ça.
Il faut pas rentrer dans des débats comme ça parce qu'il a fait des belles choses l'année dernière.
Oui, comme Lopez a déjà loupé des relances, même en Ligue Europa. Donc bon, voilà. Mais hier, Mounier, dégueulasse.
On souhaitait en parler, justement, Lille, avec son effectif plus profond que Rennes, qui s'impose 4-0 dans le derby du Nord.
Et en patron. Hein. J'ai regardé le match, il n'y a pas photo. Hein.
J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça maîtrisé, lourd. Bon, alors attention, hein, les Lensois, à la 75e, ils étaient plus que 9 sur le terrain.
Ouais, mais il n'y a pas eu match avant et Lille était déjà devant avant qu'il y ait des expulsions.
Il y avait déjà 2-0, effectivement.
Sanchez a été monstrueux. Bamba, il était partout. Le seul Dilma. Pour moi qui n'a pas été au niveau, c'est David. Ça commence à devenir un peu. Parce que David, il a eu 3 occasions lourdes.
D'ailleurs, Galtier l'a un peu.
Il l'a fracassé.
Ouais, non, franchement.
Non, mais il faut le dire. Hein.
David, ça devient extrêmement inquiétant, mais pour le reste, à tous les niveaux. Hein. La paire Font-Ballman, magnifique.
Ouais. Il a toujours été costaud, José Font. Hein. Mais, moi, je trouve que c'est un des très bons défenseurs centraux du championnat de France.
Pour moi, c'est Lens à... Bravo à Lille, hein, bien sûr. Lens a s'est complètement planté dans l'approche du match. Moi, j'ai senti une équipe timorée qui avait peur face à une équipe qui est super en confiance. Forcément, ça ne pardonne pas. On n'oublie pas non plus que Lens démarre tout de suite, tout juste dans la Ligue 1, qui sont déjà pour moi en surperformance parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là sur le début de saison. Pour moi, Lens s'est vraiment planté. Lille a joué un vrai match de Ligue 1 et un vrai derby.
Un vrai match de Ligue 1 et un vrai match de niveau Ligue Europa, moi j'ai envie de te dire, parce que quand même dans la perspective du match en Ligue Europa, très intéressant, il faut noter aussi que Lille n'a pris que 2 buts hein, depuis le début du championnat en 7 rencontres. Et n'a pas perdu avec Rennes, c'est les deux dernières équipes, parce que le Paris Saint-Germain a déjà pris 2 roustes, c'est les deux seules équipes. Et quand tu vois surtout les remplacements, messieurs,
alors justement, est-ce que tu es au courant de cette stat ? Rennes est l'équipe qui a le plus utilisé les 5 changements. Comme quoi, ça confirme bien qu'ils ont un effectif profond et que Galtier fait confiance à ses hommes.
Lille, je veux dire.
Lille, pardon, excuse-moi. Lille est l'équipe qui a utilisé le plus les 5 changements. Donc ça, c'est quand même une stat qui est...
Mais t'as vu le banc, en vrai ? Xeka, Ikoné, Yazici, Soumaré, Soumaro.
Il y a encore Jérémy Pied qui n'a pas rentré, Timothée Weah.
Ouais, mais Timothée, est-ce que Jérémy Pied va rejouer au foot un jour ? Parce que,
franchement... Jérémy Pied, c'est un 89, 31 ans.
Oui, mais il joue
c'est
jamais.
Jeune. Ouais, mais c'est un niveau Ligue 1. Alors peut-être que dans l'effectif de Lille, c'est peut-être trop élevé et qu'il serait mieux à Amiens ou dans un club.
Mais il est
comme
blessé de toute façon.
Lille a vraiment, et même du côté sur le côté d'avant-droit, au niveau d'Arojo, il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui postulent avec des vrais niveaux Ligue 1 derrière. L'effectif, il est pléthorique, il est sain, il est compétitif. Pour moi, Lille peut vraiment être sur la saison de la confirmation.
Non, pardon.
Je me suis dit, c'était pas mal ce que tu disais.
Oui, c'est bien. Mais je voulais juste mettre un une petite pause parce que sinon on n'aura pas le temps de recevoir Julien Deletra correctement. Et donc on va passer un petit morceau. J'ai choisi un petit What Is Love de Hadaway.
Ah, j'adore ça.
Voilà, ça c'est bon ça. Allez, on se retrouve tout de suite sur RKS.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
We'll be right back.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.
Allez, on est de retour dans RKS.
What is
Foot Time Show. Ouais, il est bon ce son.
J'adore.
C'est un son qui nous fait danser, qui nous fait chanter. Messieurs, il est l'heure maintenant de parler.
Messieurs, dames.
Messieurs, dames, c'est vrai, mais messieurs, parce que je suis avec vous dans le studio, messieurs.
Je veux dire, Pierre, tu as un truc à nous dire. Voilà.
Il est l'heure.
Mademoiselle.
Il est l'heure d'ouvrir notre rubrique GF38. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous l'ancien capitaine du GF38. Pur produit de la formation grenobloise. On a avec nous Julien Deletraz. Est-ce que tu m'entends, mon Jus?
Je vous entends très bien.
Bon, écoute, déjà, comment tu vas?
Ça va très bien. Merci. Hein,
on va rappeler, t'es parti depuis 2018 du GF38. Tu t'es exilé au soleil, du côté d'abord de la SCAN, il me semble.
C'est ça, ouais.
Et depuis cette année, tu es à l'US Mandelieu-Lanapoule qui joue en N3.
Ouais, juste à côté.
Bon, le climat est plutôt pas mal.
Ouais, on est 19 octobre, on est encore en t-shirt la journée dehors, donc ça va.
Bon, pas déçu alors de t'être exilé du côté du sud?
Non, du tout.
Bon, on voulait parler avec toi du GF38 parce que t'es un des rares joueurs. Moi, ça me fait plaisir parce que bon, on se connaît, mais c'est autre chose. Tu as connu le GF38 à sa grande époque, puisque tu as fait tes débuts notamment en Ligue 2 à la grande époque du GF38. Et t'as aussi été à la reconstruction après le dépôt de bilan. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques?
Ces deux époques, ce qui a changé, c'est toute la reconstruction du club qui est reparti
de zéro.
De CFA, ouais, de zéro, hein, de CFA 2, comme pas mal de clubs, malheureusement, à cause de l'aspect financier.
Bien sûr.
Et le club a réussi à se relever, ce qui est vraiment pas simple parce qu'on sait que le championnat CFA 2, CFA, c'est très compliqué de remonter vu qu'il n'y a qu'une seule accession au niveau supérieur à chaque fois.
Mais c'est homogène au plus comme championnat.
Très, ouais, c'est devenu très compliqué ces niveaux-là.
Mmh. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Surtout avec une seule montée, ça devient de plus en plus compliqué.
Ah bah c'est sûr, puis il y a toujours une équipe qu'on n'attend pas à chaque fois. Bon, on a eu Strasbourg une année, après bon, c'était logique, mais une autre année, t'as Consola, t'as eu Le Puy, il y a toujours une équipe qu'on n'attend pas et qui fait une énorme saison et c'est très compliqué.
Alors justement, dans cette nouvelle construction, tu fais partie d'un des artisans majeurs, hein, puisque tu as même été capitaine. Après être parti à Jura Sud, tu reviens. C'était vraiment une volonté de ta part d'aider ton club de formation à revenir au plus haut?
Ouais, quand on m'a recontacté une deuxième fois pour ce challenge-là qu'on n'avait pas réussi la première fois, oui, je me suis pas posé de questions, je suis revenu directement pour ce challenge-là.
Et puis tu fais une grosse saison, ça se conclut par une montée.
Tout le groupe était vraiment nouveau, tout a changé, le coach, le staff pas trop, mais le coach a changé, tous les joueurs avec quelques anciens qui sont revenus aussi, quelques grenoblois, et ce qui a fait notre force, c'est vraiment l'équipe cette année-là.
L'esprit.
Ouais, l'esprit d'équipe que le coach Guégan avait inculqué, ça nous a énormément servi tout au long de la saison, enfin des deux saisons, même après en national.
Bien sûr. Et justement, pourquoi t'es parti? C'était un choix du club de pas te conserver ou c'était toi qui avais envie de voir autre chose?
Non, mais bon, on a eu un petit différend et malheureusement, ça s'est mal terminé.
Bon, ça fait partie du...
C'est l'extra sportif.
Ça fait partie du jeu. Alors, est-ce que tu suis encore tes anciens coéquipiers?
Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Hein, mais
alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais est-ce que ça te fait... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as connu des joueurs grenoblois comme Manu Pérez, comme Yori Cravé, comme Flo Michel qui reviennent au club. Et ça, comme tu le disais, je pense que ça peut être une des forces de l'équipe actuelle.
Ouais, c'est sûr. Tout le noyau un peu grenoblois, ça fait, je pense, la force d'une équipe. Ce qui manque dans beaucoup de clubs de haut niveau maintenant, c'est rare qu'il y ait des joueurs du centre de formation ou de la ville.
Ouais, ça c'est vrai que c'est important à signaler, ça fait peut-être partie des rares équipes en Ligue 2 qui a 4-5 joueurs qui ont été formés au club. Est-ce que tu as encore des contacts sur Grenoble?
Ouais, bah, je, bah là, j'ai de l'équipe, j'ai encore Brice.
Ouais.
De temps en temps.
Entre capitaines, vous vous appelez.
Ouais, c'est vrai.
Tu lui as passé le flambeau, quoi.
Ouais, bah, j'ai eu Manu, là, quand il est revenu.
Ouais, pour, ça fait plaisir, ça aussi. Ça fait, bon, malheureusement, est-ce que tu as vu le match, est-ce que tu as vu le match de ce week-end?
Non, j'étais pas chez moi, je n'ai pas pu voir.
C'est vrai
j'ai
que...
J'ai vu les autres, mais celui-là, je n'ai pas vu.
On va en parler, tu vas pouvoir nous donner ton expérience aussi. Manu qui revient de Lens en Ligue 1, qui malheureusement fait un match pas très abouti ce week-end, mais à l'image du GF38. Est-ce que c'est compliqué quand tu reviens devant ton public, devant ta famille? Justement, est-ce que ce n'est pas difficile de sortir tout ce qui est extra-sportif, émotion, pour jouer ta première prestation?
Ah bah si, c'est sûr. Bon, après, il y a... l'effet Covid qui fait qu'il y a moins d'engouement dans le stade, que... mais ça, je pense au coin de la tête du joueur, il y a toujours le vouloir très très bien faire, et des fois on fait un peu moins bien, mais il a le temps, Manu, de faire une grosse saison, hein. Il a les qualités pour apporter énormément à cette équipe.
Alors justement, t'en parles parce que c'est vrai que du côté du GF38, c'est quelque chose qui a été important pour toi et t'as été beaucoup soutenu du côté des supporters. Et je pense que c'est quelque chose qui manque en ce moment du côté de Grenoble.
Bah, ça manque à Grenoble et de partout. Hein. C'est, entre guillemets, quand on regarde un match, c'est triste.
C'est, ouais.
En Angleterre, c'est même à huis clos et tout. Il y a plus la même...
Et puis ils mettent en plus les faux chants de supporters. Là, ils mettent des espèces de bandes derrière. Hein.
C'est pas vrai.
On dirait presque du cinéma, quoi. Avec des bruitages insérés après en post-production.
Ouais,
bah, t'as peut-être plus de monde du côté de Mandelieu, du coup. Parce que du coup, ça doit être un peu plus festif, non?
Nous, on a eu des péripéties aussi. Ça fait. On joue même plus chez nous, d'ailleurs.
C'est vrai?
Ouais, il y a eu une bagarre générale et on joue à 50 km de chez nous.
Ah, ouais, putain, en N3, pourtant, c'est rare. Bon,
ouais, mais
ça fait partie.
On est tombé sur les corps.
Ah!
Ben voilà, fallait finir l'histoire!
Tu les as bien connus, ces matchs en Corse en plus.
Ah, bah là, ouais, ça s'est mal passé.
Bon, bah ça s'est mal fini, ça fait partie. Justement, le GF38, qui après ton passage est arrivé jusqu'à la Ligue 2, qui fait un super début de championnat. Est-ce que tu penses que cette équipe a les moyens et le club, parce que tu connais très bien le club, a les moyens d'aller chercher plus loin à court terme?
Ouais, bah, cette année, je pense que il y a peut-être la possibilité de jouer quelque chose, parce que il y a pas, les autres années, il y avait quand même Lens, Metz, Lorient, il y avait vraiment des grosses équipes qui avaient vraiment connu la Ligue 1 depuis pas mal d'années. Cette année, ça a l'air bien homogène et ils ont peut-être leur épingle à tirer cette année, jouer quelque chose cette année.
Tu penses que, alors après, ça, au niveau sportif, est-ce qu'au niveau structure, tu penses qu'aujourd'hui, le GF38 est prêt à aller à retourner en Ligue 1?
Bah, les structures, oui, ils les ont, hein. Ils sont déjà allés en Ligue 1, donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour le club.
Bon, autre chose aussi qui est important, je pense que ton année, vous avez vécu une formidable année parce qu'il y avait cette ambiance de groupe. Est-ce que sur tes anciens collègues que tu as eu, c'est quelque chose qui semble se dessiner? Parce que nous, de ce qu'on voit de l'extérieur et qu'on dit à chaque émission, c'est qu'il se dégage quelque chose de sympa, d'agréable.
Est-ce que tu sens que ce groupe vit bien? Alors, même si tu es à l'extérieur, hein, tu regardes ça un petit peu comme nous, comme un petit peu un supporter maintenant. Est-ce que tu captes justement qu'il s'est passé quelque chose par rapport à l'année dernière où moi, je te dis franchement, Julien, je m'ennuyais un petit peu et je trouvais que cette équipe, elle dégageait pas grand chose. Et je trouve que cette année, il y a vraiment eu un changement à ce niveau. Voilà.
Ouais, bah c'est possible. Après, comme on dit, quand on gagne, quand les résultats sont là, tout va bien, on voit tout beau, tout rose.
C'est vrai.
Et c'est dans la difficulté où justement on voit les équipes vraiment soudées, où il y a une bonne ambiance et où on se bat pour les collègues.
C'est vrai.
Donc pour l'instant, tout va bien, en espérant que ça continue pour eux et que dans les moments difficiles, parce que dans une saison, il y en a toujours un, et c'est là où on voit vraiment... L'état d'esprit et l'équipe, si elle est vraiment solidaire.
Pour toi, c'est ce qui peut faire la différence, c'est justement la gestion des temps faibles.
Ouais, bah dans une saison, il y en a toujours un moment ou un autre. Hein. Après, général, c'est surtout les mois charnières à la reprise de la trêve hivernale.
Le mois de janvier-février, il fait mal.
Ouais, c'est celui-là qui fait mal. Et donc, faut voir comment les équipes arrivent à le passer.
Ouais.
Moi, je voulais te poser une question. Toi qui as connu depuis tout petit le GF 38, est-ce que tu as une personne qui t'a marqué au sein du club?
Oui, il y a toujours eu Monsieur Garcin.
Ah, j'allais dire, on est de la même génération, donc je pensais que tu allais me dire c'est Roger Garcin. Hein, qui est...
la famille Garcin, bah ouais, il y a même le fils.
Qu'a Didier, donc, qui est le secrétaire général du club.
C'est des personnes que j'ai toujours connues depuis que je suis là-bas. Donc,
Parce que ça, c'est aussi l'ADN GF 38. Hein. Ça fait partie aussi de ces personnes-là, comme Roger Garcin, comme Grégory Kirkeden, comme Mick Diaferia, qui font partie des anciens.
Ouais, c'est les gens de l'ombre, entre guillemets,
bon,
d'un club.
C'est important.
Ouais, il en faut.
Pour en finir, mon jeu, est-ce que tu as un message à faire passer aux Grenoblois et aux supporters?
Non, bah, leur souhaiter une très bonne saison et pourquoi pas remonter en Ligue 1 cette année.
Eh ben, en tout cas, ça serait beau. En tout cas, on te remercie d'avoir répondu
merci,
présent
Julien.
À
merci
notre
beaucoup.
Invitation.
Merci à vous.
Passe le bonjour à toute ta famille. Ça
et bonne
plaisir.
Saison.
Et c'est puis gentil. Bonne saison à toi du côté de Mandelieu.
Merci bien.
Allez, salut, bye bye.
Bonne journée.
Bye, merci toi aussi, bye. Ben voilà, c'était un plaisir d'avoir l'ancien capitaine du GF 38. Ça fait partie des artisans de la remontée du GF 38 au plus haut niveau. Et en plus, c'est un pur souche grenoblois. Messieurs, on va parler Ligue des Champions. Et on va ouvrir aussi une nouvelle rubrique, parce que c'est pas le quiz aujourd'hui.
Eh oui, on en a parlé un petit peu pendant que t'étais pas là, Melvin, parce que oui, on travaille quand tu n'es pas là.
D'accord. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais je vais me barrer.
Voilà, du coup, on a parlé effectivement de cette nouvelle rubrique qui remplace le quiz les semaines de Ligue des Champions. Donc, on est trois. On va donner trois pronos chacun. Le but, c'est d'essayer d'avoir le plus juste possible.
De marquer des points.
Voilà, et de marquer des points.
Et le dernier, c'est
le point. Le point équivaut à... la cote, c'est-à-dire que quand je vais vous dire que la victoire, je sais pas moi, de Séville, elle est à 2, et si par exemple Pierre il dit je pronostique une victoire de Séville à 2, si Séville gagne, effectivement il marque 2 points. Si la cote de Séville est à 4, c'est 4 points, etc. etc. Si bien évidemment le pronostic ne se réalise pas, il y a 0 points. Hein. D'accord, on est d'accord là-dessus. Est-ce que tu peux nous présenter déjà les matchs, Melvin?
Bien sûr, je vais vous présenter les matchs, hein, puisque ça commence dès mardi avec, dans le groupe E, Chelsea face à Séville. C'est le groupe de Rennes, hein, et Rennes qui va jouer contre le FC Krasnodar.
Je repense au quiz de la semaine.
J'étais pas loin. Mais c'est le FC Krasnodar. Du côté du groupe F, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui va recevoir le club de Bruges. La Lazio, le choc hein, dans ce groupe F, la Lazio qui reçoit le Borussia Dortmund. Dans le groupe G, le Dynamo Kiev qui reçoit la Juventus de Turin. Le FC Barcelone qui reçoit Ferencváros. Le groupe du Paris Saint-Germain qui reçoit, c'est le choc hein, pour moi de cette première journée de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain face à Manchester United. Et le RB Leipzig qui reçoit l'Istanbul Başakşehir. Il y a de sacrés noms. Hein, dans cette Ligue des Champions. franchement, en tant que commentateur, il va falloir être bon. Parce que,
heureusement qu'on l'est pas.
Heureusement qu'on l'est pas. On va quand même donner aussi la journée de mercredi, hein, puisque le RB Salzbourg reçoit le Lokomotiv Moscou et le Bayern Munich reçoit l'Atlético Madrid. Hein, c'est le deuxième choc de cette journée. Dans la poule B, le Real Madrid qui reçoit le Shakhtar. Ça sera pas si simple peut-être pour le Real Madrid après la défaite de ce week-end face au Shakhtar. Et l'Inter Milan qui reçoit le Borussia Mönchengladbach. Dans la poule de Marseille, Manchester City qui reçoit le FC Porto et les Marseillais qui se déplacent. Heureusement pour Marseille, ça peut être quelque chose de très bien pour eux, c'est que ça se joue à huis clos, alors que l'Olympiakos c'est normalement
C'est le feu là-bas.
Ça peut être quelque chose qui peut être important. Dans la poule de l'Atalanta, le FC Midtjylland, hein, c'est celui que le FC Disneyland, voilà, qui joue contre l'Atalanta Bergame, l'Ajax d'Amsterdam, voilà, qui reçoit.
Avec plutôt dans les buts, Dingo défenseur central, Mickey numéro 10.
Voilà, Mickey numéro 10, et en attaquant le renard des surfaces, Davy Crockett. Et l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit Liverpool, ça promet, messieurs, normalement du football, hein, l'Ajax d'Amsterdam.
Il y a des belles affiches, je trouve, quand même, sur ces premières journées, là, c'est pas mal. Hein. Chelsea-Séville, PSG-Manchester, tu l'as dit.
Ajax-Liverpool.
Même Lazio-Dortmund, c'est pas mal. Bayern-Atletico. Inter-Mönchengladbach aussi, ça va être pas mal. City-Porto. Porto, c'est toujours une équipe qui fait honneur à cette Ligue des Champions parce que c'est pas toujours l'équipe la favorite, mais c'est une équipe qui joue toujours crânement ses chances, je trouve.
Je te rejoins.
Bon, Pierre est en train de dormir, donc il va peut-être nous donner ses pronos, comme ça le réveillera un peu.
Tes pronos, mon Pierrot.
Bonsoir.
Elle te fait chier, l'émission.
Bonsoir à tous.
Mon Pierrot.
Alors, je suis en train de réfléchir.
À terme, est-ce que le mode de fonctionnement, on en reparlera off, mais est-ce qu'on parierait pas tous sur les mêmes matchs pour voir qui tombe?
Si vous voulez, on peut même se mettre d'accord maintenant.
Moi, je pense que c'est une très bonne idée.
Allez, ouais, on va se mettre d'accord maintenant, on va parier sur trois matchs.
Il y a des matchs sur lesquels il y a pas débat, et puis bon, il y en a d'autres.
Il y a des
matchs. Justement, en fait, moi, ce que je trouvais intéressant dans le fait qu'on choisisse nos matchs, c'est que par exemple, si quelqu'un qui prend que des favoris, par exemple, bah oui, ok, mais il marquera qu'un point, alors que quelqu'un qui va prendre des risques. Il va peut-être gagner 5 points.
On peut prendre des risques sur des gros matchs.
Voilà. Mais bon, bref, on va choisir 3 matchs. Allez, on choisit 3 matchs.
Bon, on va prendre les plus spectaculaires.
Bien sûr.
On peut prendre Bayern-Atlético.
Allez, commençons par Bayern-Atlético, messieurs. Kevin, concernant ce match, quels sont tes pronostics pour Bayern-Atlético?
Bon, le Bayern à domicile. Bayern qui est costaud. Bon début de saison, même s'il y a eu un petit accident contre Hoffenheim. Bon, ça, c'est bon. Je pense que c'est déjà oublié. On l'a déjà vu dans le match de la semaine dernière. L'Atlético qui marque le pas dans ce début de championnat, côté Espagne. Donc, moi, je vois bien une victoire du Bayern. La cote, je vais vous la donner. C'est mercredi le match.
C'est mercredi. Moi, je te rejoins. Je pense que ça va.
Cote à 1,55 pour le Bayern, donc ça fait 2 points parce qu'on arrondit en haut. Hein.
Ouais, tu fais comme tu veux en fait. Mais
pas de problème. On va les noter quand même, faut les noter.
Ça fait cote à 1,2, ça fera 2 points si on gagne.
Tu notes, c'est toi qui notes, Mélie.
Je suis en train de noter, il n'y a pas de souci. Donc,
okay. Par contre, donc, si tant est que nos chers auditeurs et auditrices veuillent s'inspirer à un moment de nos pronostics, il faut aussi que tu te mouilles un peu sur le score que tu projettes.
Non, moi on ne donne que les victoires.
Mais projette-toi aussi un
peu. Non, on donne que les victoires.
Non, mais tu donnes la victoire pour notre jeu, mais prononce-toi à toi sur
le score. Eh ben, je vois une victoire
2-0. 2-0.
Ouais.
Cote à 2,3. Tu vois, je l'ai sous les yeux.
Voilà.
C'est plutôt pas mal. C'est noté.
Allez, les buteurs, je vois bien Müller marqué. Voilà.
Müller. Eh ben, écoute, on note tout ça. À toi, mon Pierrot.
Moi, je vois bien le Bayern l'emporter 3-0.
Ah ouais, carrément.
Ouais. 3-0. Moi, je pense que ça va être le tarif qui va à peu près. Ouais, je pense qu'on va être là-dessus avec Gnabry qui marque un doublé.
Ah,
carrément. Ok.
Toi, tu le vois comme ça.
Ouais.
Pourquoi Gnabry?
Bon, parce qu'il marche sur l'eau, il est monstrueux, il est en sélection, il est avec l'équipe du Bayern sur la Ligue des Champions à Lisbonne. C'est un des grands artisans du sacre et je le sens pas à son plafond de verre, donc je pense qu'il va continuer sur cette dynamique et je le vois bien encore crever l'écran pour partir vers un autre club de Première Ligue dans les prochaines années.
Allez. Melvin, moi je trouve que j'y viens d'avoir une idée absolument extraordinaire.
Vas-y. Soumets-nous ton idée comme ça.
On va mettre les pronos en ligne sur notre page RKS Foot Time Show.
Très, comme ça,
il y aura une preuve écrite, inscrite dans le marbre, comme quoi je vais gagner et que je l'avais dit dès le départ.
Je fais quand même mon pronostic.
Oui, vas-y.
Pour
bien sûr.
Moi, ça sera un 3-1 pour le Bayern.
Ouais.
D'accord, avec un doublé de Lewandowski et un but de Gnabry.
Ok.
C'est pas mal, non?
Alors, je viens d'avoir une autre idée extraordinaire.
Ah, bah vas-y.
Voilà. C'est que celui qui prédit le bon score marque un point supplémentaire en bonus.
Très bien.
Ok, voilà. Ça va.
Deuxième match, Pierrot, lequel tu choisis? Moi, j'aurais choisi Ajax-Liverpool.
Ouais, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on mette Paris Saint-Germain, Manchester United.
C'est évident.
Ça va cartonner.
C'est le choc.
Oui, il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue.
C'est le choc. Allez, on va jouer le Paris Saint-Germain contre le Manchester United. Je vais commencer, messieurs, ça vous laissera le temps de réfléchir.
Pierre, c'est tout réfléchi pour lui. Hein.
Non, honnêtement, je vais me mouiller.
Oula.
Ouais, je vais me mouiller. Je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 2-0. Que ça sera peut-être pas le choc qu'on attendait. Je pense que le Paris Saint-Germain va survoler ce match. Et c'est Kylian Mbappé qui va marquer et Kimpembe sur corner.
Et ben bah moi je vais mouiller aussi et je vais vous lister des joueurs, c'est ceux qui sont absents pour le match. Bernat, Draxler, Icardi, Kerrer, Marquinhos, Paredes, Danilo Pereira et Verratti. Donc pour moi, ça sera un 2-2.
Ah ouais, 2-2.
Ouais, 2-2. PSG et Manchester 2-2, parce que Manchester ils vont y aller au complet, hein. Il n'y aura que Phil Jones qui n'est pas là, donc bon, autrement dit on s'en fout.
2-2, but de qui?
2-2, cote à 4,40, donc ça fera 4 points.
Très belle cote.
Voilà. Et but de qui? Moi je vois bien Neymar, parce que je pense qu'il va jouer. Neymar marqué.
Normalement il devrait jouer.
Voilà.
Donc Neymar qui marque. Et toi mon Pierrot?
Moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain 4-1.
D'accord.
Parce que bon, Kevin cite les absents.
Quoi, t'es 1,63, donc ça fera 2 points.
Kevin cite les absents, mais on peut s'amuser aussi à citer les présents. Il y aura Icardi, il y aura Neymar, il y aura Mbappé.
Non, il n'y aura pas Icardi, justement.
Icardi n'est pas là?
Non.
Bon, de toute façon, il ne sert à rien, donc ce n'est pas grave. il y aura Di Maria, il y aura les latéraux.
Verratti absent 3 semaines.
Il y a Becker à gauche, au milieu de terrain, Kimpembe est là. Il faut qu'on se dépêche, il y aura de la rotation, donc moi je suis pas inquiet pour
un buteur, un buteur, mon Pierrot.
Un buteur, bah Mbappé, doublé de Mbappé, doublé de Neymar.
Parce que tu dis Mbappé deux fois, donc Mbappé.
Messieurs, Ajax-Liverpool, moi c'est le match qui va me faire, normalement, qui devrait jouer au football. Je sens une petite surprise dans ce match-là.
Ah ouais, tu penses?
Bah écoute, je pense qu'on attend un... Moi je vois bien un match nul de partout.
Bah je dis la même chose, sans vouloir...
Cote à 3,95.
2-2 pour moi aussi.
Eh ben écoute, tu vois, comme ça au moins on est raccord. Et toi, mon Daniel Riolo?
Non, moi je vois bien.
Regarde le.
Allez, je vais mettre une victoire de l'Ajax. Je prends un petit risque. Cote à 4,75.
Ouais,
cote à 4,75. Je vous donnerai pas le buteur parce que je connais pas la moitié de l'effectif, mais je vois bien une victoire de l'Ajax. Moi.
Combien?
Oh, 1-0.
Tu sais que Dan Percy joue plus là-bas.
Messieurs, Gunteler, avant de clôturer. Quel match encore Thiago Alcantara. Quelle recrue pour Liverpool.
Magnifique.
C'est
magnifique.
C'est un monstre. C'est comme ça qu'on aime le football. C'est comme ça qu'on aime.
Il est incertain d'ailleurs pour le match contre l'Ajax.
Il est incertain face à l'Ajax, mais en tout cas, c'est des joueurs magnifique. Comme ça qu'on veut voir jouer. Messieurs, merci encore pour cette émission.
Et de t'avoir pardonné pour ton retard.
Merci de m'avoir pardonné pour ton retard. Merci à Julien de Letras d'avoir répondu présent. Chaque semaine, on va avoir un ancien du GF38 ou un actuel. Et ça, c'est un pur plaisir. Messieurs, bonne semaine.
Salut.
Merci, et à la semaine prochaine.
Allez, bonne soirée. Ciao.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.